Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonsoir, nouveau numéro de Bintiminoudi avec ce soir comme invité Michel Stéphanie, le secrétaire régional du Parti communiste. Michel Stéphanie, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le PCF, au-delà de sa lente érosion électorale depuis le début des années 80, traverse une nouvelle crise. En effet, pour la première fois de son histoire, les militants communistes ont choisi un texte différent de celui porté par la direction nationale en prévision de leur congrès fin novembre. Nous reviendrons sur ce vote inédit et ses conséquences. Pierre Laurent doit-il quitter la tête du parti? Une large part de cette émission sera également consacrée à la situation du Parti communiste et plus généralement de la gauche encore. Son rôle d'opposant, ses perspectives. Mais avant notre focus de la semaine, il est consacré aujourd'hui aux manifestations de ce mardi partout en France, avec en ligne de mire la politique d'Emmanuel Macron jugée trop libérale. La grogne sociale, c'est le dossier de Bintiminoudi.
Bintiminoudi, le dossier.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toute la France, entre 160 et 300 000 selon les estimations, des étudiants, des salariés, des fonctionnaires, beaucoup de retraités aussi, pour dénoncer la politique du gouvernement, demander une inflexion sociale. Des manifestations à l'appel de 6 syndicats dont la CGT et FO, mais pas la CFDT, la CFTC ou encore la CGC, une division syndicale qui explique en partie une mobilisation en demi-teinte. En Corse, entre Bastia et Ajaccio, il n'était que quelques centaines à battre le pavé. Parmi ces manifestants, Laura, orthophoniste.
Je suis salariée et qu'on a de plus en plus d'argent qui nous est retiré en fait par le gouvernement. Du coup, c'est un peu la crainte de nous voir retirer toutes nos aides, quoi. On va dire que je m'en sors, mais je vis pas de façon aisée, alors que j'ai quand même fait 5 ans d'études pour pouvoir exercer, quoi.
Robin, lui, 22 ans, il vient à peine de terminer ses études d'informatique. Il est inquiet pour son avenir.
Les réformes actuelles et les orientations du gouvernement qui précarisent le marché du travail, allongent l'âge de départ à retraite par des moyens divers, que ce soit l'âge minimum ou l'âge final, parce que il faudra toujours plus cotiser, parce que leur système est calculé pour qu'on aille toujours de plus en plus à la retraite, voire qu'on meure même avant l'âge de la retraite.
À ses côtés, justement, beaucoup de retraités qui s'estiment pénalisés, notamment par la hausse de la CSG. C'est le cas de Livia et de Pierrot.
Nous sommes retraités tous les deux et nous perdons à peu près 100 euros par mois. C'est la retenue qui a été instaurée avec la CSG, donc ça nous fait donc une perte de 100 euros pour tous les deux. Les prix augmentent, donc c'est très difficile pour les jeunes, pour les retraités, pour tout le monde.
Ça s'est empiré. Il n'y a rien pour le petit. Tout est pour le gros.
Les accusations rejetées par le pouvoir qui entend libérer l'activité, mais aussi protéger, et de lister des mesures sociales prises ces derniers mois, le 100% santé au reste à charge zéro pour les prothèses dentaires, auditives et les lunettes, le doublement des places de CP, la revalorisation de tous les minima sociaux, ou encore la suppression progressive de la taxe d'habitation.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Bintiminoudi avec comme invité ce soir Michel Stéphanie, secrétaire régional du Parti communiste. Michel Stéphanie, on l'a encore entendu dans ce reportage, président des riches, l'étiquette colle à la peau d'Emmanuel Macron. Est-elle totalement justifiée? Les mesures que je viens d'énumérer, il y en a d'autres, sont-elles à balayer d'un simple revers de main?
À l'évidence, il y a de l'inquiétude et du mécontentement. Et je crois que face à cela, il est sain qu'il y ait un mouvement social puissant. Il faut que ce mouvement social...
Puissant, c'est vite dit. Pour l'instant, la mobilisation est relativement faible.
Il faut que
faible.
Ce mouvement social se développe. Je vous fais remarquer quand même qu'en Corse, il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont défilé à Ajaccio et Bastia. Le STC n'appelait pas à manifester. Donc, il y a besoin, bien entendu, de renforcer cette mobilisation. C'est une évidence parce que les coups pleuvent et les coups sont durs. Et je dirais qu'ici, lorsqu'on parle des retraités, ils sont doublement ponctionnés. Vous savez, par exemple, que par arrêté, le président du conseil exécutif, Gilles Simeone, a décidé d'augmenter pour le placement en EHPAD le reste à charge pour les patients de 11 euros, ce qui est considérable avec effet rétroactif au 1er janvier. Donc il y a aujourd'hui une politique libérale qui est mise en œuvre et qui ponctionne lourdement les retraités, bien sûr, mais les salariés aussi, ça a été dit dans votre reportage.
Tout est à jeter dans la politique d'Emmanuel Macron ?
Ben, actuellement, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui font mal, énormément mal, contre les services publics, contre l'emploi, puisqu'il y a plus de précarité, contre les retraités qui sont ponctionnés. Bref, il y a une situation aujourd'hui où s'accumulent les richesses d'un côté, de manière opulente, et de l'autre, bien entendu, c'est les difficultés, les fins de mois qui sont de plus en plus complexes et des gens qui s'appauvrissent.
La gauche de 2012 à 2017 avec François Hollande a fait mieux ?
Ben, avec François Hollande, nous avons un aperçu de ce que sont les renoncements du Parti Socialiste. Malheureusement, ça nous laisse dans une situation effectivement où la gauche est totalement atomisée. Il y a besoin donc de reconstruire. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous voulons travailler à ce rassemblement autour des valeurs de gauche et écologistes pour créer une dynamique à la fois d'opposition à la politique de Macron et de construction politique à gauche.
Pourquoi, malgré cette grogne sociale, les communistes, la gauche en général, hormis la France insoumise, ne sont pas davantage audibles ?
Ben, c'est une difficulté à laquelle...
Et il y a peu de monde dans la rue, je le répète.
C'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés et l'engagement militant, même s'il est important de notre part, nous le voyons, se heurte bien entendu à cette réalité, mais c'est pas pour autant que nous devons renoncer à celui-ci, et c'est ce que nous faisons au quotidien, de telle sorte que le mouvement social se développe, en tout cas nous l'appelons de nos voeux et nous faisons tout pour...
Et il devrait y avoir une nouvelle journée de mobilisation dans quelques semaines. Michel Stéphanie, le Parti communiste, je le disais en introduction, traverse une nouvelle crise. Avant le congrès national du parti fin novembre, le texte du secrétaire national Pierre Laurent a été mis en minorité. Situation inédite, c'est la contribution d'André Chassaigne, le député André Chassaigne, qui a été choisi par les militants pour servir de base programmatique au parti. Vous avez, vous, soutenu la ligne de la direction nationale. C'est donc, par ricochet, un revers pour vous aussi. Quelles en sont les conséquences pour le PCF et pour Pierre Laurent ?
Je crois qu'il faut présenter les choses un peu différemment. Il n'y a pas la guerre au Parti communiste. Nous avons en commun...
Pas de guerre, mais une division.
L'idéal communiste, et cet idéal nous rassemble. À partir du texte qui a été adopté, donc les statuts l'ont prévu.
C'est la première fois depuis 1920.
Oui, nous allons travailler à faire en sorte que les communistes se rassemblent, que le Parti communiste français ait la force et l'organisation nécessaires pour impulser les luttes dont nous parlions à l'instant, et nous allons le faire avec le texte qui a été adopté après un vote qui a mobilisé plus de 30 000 adhérents.
Donc, le texte d'André Chassaigne, est-ce que Pierre...
C'est pas le texte d'André Chassaigne, c'est un texte
le manifeste
qui a été
pour un Parti communiste du 21e siècle.
Il a été co-signé par 300 adhérents, ce qui est statutaire, et ensuite il a été voté par plus de 11 000 adhérents. Donc c'est un texte aujourd'hui qui est la base commune de tous les communistes pour la préparation de ce congrès extraordinaire.
Mais quelle est la différence avec la contribution de Pierre Laurent ? Rapidement.
Rapidement, donc je crois que ce qui a le plus préoccupé les camarades qui se sont exprimés dans ce sens-là, c'est l'effacement du PCF, en particulier.
On a reproché le rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon.
Aux élections, aux élections présidentielles où les camarades, ce qui peut se comprendre, considèrent que l'absence de candidature communiste est négative pour le Parti communiste et pour son rayonnement.
Et Pierre Laurent peut toujours rester à la tête du parti ?
Nous n'en sommes pas là pour l'instant.
On parle de Fabien Roussel pour le remplacer, qui est président de la Fédération du Nord.
Voilà. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On va faire le congrès. Le congrès a lieu
fin novembre
et la direction sera élue à ce moment-là. Nous allons en débattre, bien entendu, puisque nous sommes dans une phase aujourd'hui toujours de contribution, d'élaboration de la politique du parti, et nous ne sommes pas encore à la décision de direction.
Alors, avant de passer à la deuxième partie, un mot, Michel Stéphane, sur ce rapport de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, dont l'Obs a publié aujourd'hui des extraits. Il pointe du doigt plusieurs avantages fiscaux dont bénéficie la Corse, notamment sur le prix de l'alcool, sur le prix du tabac et surtout l'arrêté bio, les fameuses exonérations de droits de succession. Est-ce qu'il faut craindre pour la Corse que ces avantages soient rabotés ?
L'inspection
et faut-il le craindre ?
L'inspection générale des finances serait bien inspirée de regarder du côté des paradis fiscaux ce qui se passe, puisque ça se compte en milliards. Cela étant, concernant la Corse, il y a effectivement environ 300 à 350 millions d'euros de niches fiscales, comme ils disent. Dans ces 350 millions d'euros de niches fiscales, il y en a 200 qui sont consacrés aux réfactions de TVA, sur pas que sur le vin ou les cigarettes, mais aussi sur les biens de consommation courante. Nous disons qu'il faut faire la transparence sur l'utilisation de cet argent de la solidarité nationale pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages insulaires. C'est ça la question qui est fondamentale. Ensuite, vous parlez des arrêtés MIO. Les arrêtés MIO, effectivement, il y a un problème de justice fiscale.
Vous avez toujours été contre leur prorogation.
C'est pas normal que les gros patrimoines soient exonérés de leurs obligations fiscales, alors que, par ailleurs, les ménages sont, eux, mis à contribution. Donc, il y a, de ce point de vue, nécessité, je disais, donc, de faire la transparence sur l'utilisation de l'argent de la solidarité nationale, qui, aujourd'hui, est capté, je pense en particulier à la grande distribution, à ce consortium des patrons corses qui, aujourd'hui, contrôle l'économie de la Corse et qui bénéficie très largement de ces 194 millions d'euros de réfaction de TVA. Et là-dessus, l'inspection générale des finances ne se penche pas.
Elle pointe également du doigt l'IGF, ce crédit d'impôt pour aider à l'investissement des petites et moyennes entreprises. Crédit d'impôt qui a été amendé par les députés nationalistes. Ça a été adopté par la commission des finances. Ils ont eu raison de l'amender, ce crédit d'impôt qui était souvent dévoyé.
Ben, j'ai pas vu le texte définitif, mais ce qu'il apparaît comme ça, c'est que on préserve la grande hôtellerie. Et effectivement, de ce point de vue, il y a à s'interroger, parce que j'ai entendu récemment que l'hôtellerie allait bénéficier aussi de prêts à taux zéro, sous la forme d'avances remboursables. Donc il y a des aides considérables qui sont versées donc à l'hôtellerie. Et il faut bien entendu regarder pour que là aussi, eh bien, il y ait une démarche de justice sociale.
20 minutes, l'émission politique.
Michel Stéphane, venons-en à présent à la situation du PC en Corse. Après l'élimination au premier tour lors des dernières territoriales, les communistes ne sont plus représentés à l'Assemblée de Corse, une première depuis 1982. 5,6%, c'est le score réalisé par la liste conduite à l'époque par Jacques Casamarthe. Quelques mois plus tôt, vous aviez obtenu à titre personnel un peu plus de 5% aux législatives dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Vous avez donc quasiment disparu du paysage politique insulaire. Est-ce irrémédiable ?
Je ne le pense pas, puisque les idées que nous défendons sont, vous l'avez montré dans votre reportage précédemment, largement partagées. C'est les idées de justice sociale et de combat pour obtenir cette justice sociale. Alors, est-ce qu'en Corse...
Le mot est sans doute impropre, mais vous n'arrivez pas à capitaliser sur ce mécontentement.
Ah non, mais l'objectif, c'est pas de capitaliser. L'objectif, c'est de rassembler pour créer un rapport de force politique qui permette des changements, de s'opposer aux politiques libérales. Et bien entendu, c'est un effort considérable que nous devons développer. Nous ne le nions pas. Cela étant, nous efforçons, par notre engagement militant, j'insiste là-dessus, à rassembler les personnes, éventuellement les forces politiques qui se réclament encore des valeurs de la gauche, écologistes.
Se rassembler avec qui ? La gauche aujourd'hui, c'est un champ de ruines.
C'est ce que je suis en train de vous dire, mais nous sommes encore nombreux à partager les valeurs de la gauche, les valeurs écologistes. Et donc il y a dans cette région, je pense en particulier à Bastia aussi, de nombreux électeurs de gauche qui sont encore présents et qui s'interrogent face, je dirais, au terrain laminé que nous voyons à gauche sur ce qui peut être fait. Ben nous disons, en tout cas nous faisons une offre politique d'un rassemblement autour des valeurs de gauche et écologistes, et nous y travaillons.
Pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes ?
Ben, dans les urnes, nous allons voir. Il va y avoir les élections européennes prochainement. Il y aura bientôt les élections municipales. Après. Et donc, nous allons faire une offre politique de rassemblement, je le dis à l'instant, sur les valeurs de gauche et écologistes.
Puisque vous parlez de rassemblement, où en êtes-vous de vos relations avec la France insoumise ? Elles sont toujours aussi exécrables, ces relations ?
Ici, la France insoumise, ça se réduit à peu de choses. Quant à ce qui peut se passer sur le plan national, vous pouvez le suivre régulièrement et nous le regrettons. La France insoumise a une attitude hégémonique à gauche, avec une orientation qui est un alignement pur et simple sur ce que dit et veut Jean-Luc Mélenchon, et également, je dirais, des prises de position qui nous amènent parfois sur des terrains populistes qui posent problème, en tout cas. On l'a vu, par exemple, dans le refus que Jean-Luc Mélenchon a manifesté sur la signature du manifeste pour les migrants.
Avec Jacques Casamart, les relations sont toujours au beau fixe ? Elles n'ont pas évolué depuis les dernières territoriales.
Nous parlons évidemment quand l'occasion se présente, mais voilà, il n'y a pas de ce point de vue. Lorsqu'on regarde le paysage politique, il y a nos organisations, leur organisation a son propre fonctionnement, et nous avons le nôtre. Et ça n'empêche pas que nous puissions évidemment travailler ensemble. Nous l'avons fait, nous le referons à nouveau sans doute.
Avec les autres, du moins ce qu'il en reste, je pense aux radicaux de gauche, aux socialistes, il y a toujours des.
C'est la raison pour laquelle. Je disais à l'instant, nous nous adressons à ces femmes et à ces hommes qui sont attachés aux valeurs de gauche et qui regrettent aujourd'hui que celles-ci soient engluées dans un paysage politique à gauche complètement déstructuré. Et donc nous sommes prêts à agir pour un rassemblement de ces forces-là, de ces femmes et de ces hommes, pour reconstruire quelque chose à gauche sur ces valeurs-là.
La gauche, Michel Stéphane, a été au pouvoir régional de 2010 à 2015, vous en faisiez partie. Désormais, depuis 3 ans, ce sont les nationalistes qui sont au pouvoir. Si vous deviez faire un bilan comparé.
Si on regarde ce qui se passe à Bastia, bien entendu, vous vous promenez dans la ville comme moi, on ne peut pas dire que ce soit très exhaustif lorsque les gens parlent de la municipalité. Le maire n'est pas le maire, puisque tout le monde reconnaît que c'est à Ajaccio que les choses se décident. Quant au plan régional, maintenant ça fait plus de 3 ans que la majorité régionale est aux affaires.
Ça fera 3 ans à la fin de l'année.
Ce qui a le plus fonctionné, c'est l'emprunt. Pour le reste, lorsqu'on regarde la politique qui est mise en œuvre par la majorité nationaliste, qu'il s'agisse des ordures ménagères ou, par exemple, qu'il s'agisse encore de la politique des transports, il a beaucoup été question de la compagnie régionale. On est dans une DSP transitoire, puis une deuxième DSP transitoire, puis une troisième DSP transitoire. On a eu un premier test marché, on a eu une deuxième test marché, et on ne sait plus trop où on en est. Donc, la réalité de la politique qui est mise en œuvre par cette majorité régionale, il faut aller la chercher, bien entendu.
Ce qui ne veut pas dire que le bilan de Paul Jacob a été parfait.
Le bilan de Paul Jacob, nous l'avons nous-mêmes critiqué lorsqu'il fallait le critiquer.
À la fin.
Non, pas qu'à la fin. Nous nous sommes souvent opposés. Et lorsque vous regardez l'ensemble des votes qui sont intervenus à l'Assemblée de Corse, lorsque nous nous opposions, il y avait parfois des majorités qui se constituaient et des groupes qui arrivaient à son secours. Assez surprenant. Donc, voilà, la majorité régionale qui a été décevante, cette majorité régionale a été décevante.
Majorité régionale de gauche, on précise.
Ce qui ne veut pas dire que rien n'avait été fait. Bon, il reste encore le Paduc, il y a encore, si on prend l'exemple du chemin de fer, où j'ai un peu exercé des responsabilités.
Vous en étiez le président.
Il y a des choses qui ont été faites, et puis on pourrait encore rentrer un peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, effectivement, il y a un regard sur cette mandature qui est assez négatif.
Assez négatif, cela dit, en 2017, l'Assemblée de Corse a adopté un plan de lutte contre la précarité à l'initiative de la majorité territoriale. Ce sont quelques 12 millions d'euros investis, une soixantaine de mesures sociales pour venir en aide aux plus démunis. Vous regrettez que la gauche ne l'ait pas fait avant ?
Je pense qu'il y avait un plan de précarité qui avait été adopté avec le PADUC. Cela étant, lorsque, je le disais à l'instant, vous avez une décision par arrêté du conseil exécutif qui augmente de 11 euros la participation donc des patients aux EHPAD, la lutte contre la précarité, on cherche en vain.
Mais à côté, il y a d'autres aides. D'ailleurs, vous l'avez voté, ce plan. Vous étiez toujours conseiller territorial.
Oui, nous l'avons voté et nous avons été de ceux qui demandaient à ce qu'il y ait, à côté du plan, une enveloppe financière. Et effectivement, ça n'avait pas été simple à l'époque. Alors aujourd'hui, il y a sans doute 12 millions d'euros, mais il y a aussi des décisions, dont celle dont je viens de parler, qui est problématique quand même.
Alors, dernière question, Michel Stéphane, on arrive quasiment au terme de cette émission. Le Parti communiste sera présent aux prochaines échéances, je pense aux municipales de 2020 et aux territoriales de 2021.
Ben, nous, pour l'instant, c'est encore un peu loin, les territoriales de 2021, en tout cas pour ce qui est des élections municipales, je pense en particulier donc à Bastia et à la communauté d'agglomération de Bastia. Nous allons travailler, je le répète, à un rassemblement sur les valeurs de gauche, écologistes, pour faire une offre politique de progrès, à la fois pour la ville de Bastia, pour la communauté d'agglomération de Bastia, et sur le département, partout où cela sera possible, pour la constitution donc de listes qui seront ancrées à gauche.
Sur Bastia, donc, les discussions ont commencé entre qui et qui ? Ça se joue entre qui et qui ? La gauche, ou vous allez voir un peu plus loin, sur la base d'un tout sauf les nationaux ?
Ben, je crois que cette façon de procéder du dégagisme n'est pas la nôtre. Il faut en politique quelques principes, sinon ça amène sur des terrains, des terrains glissants. Et nous ne sommes pas de cette politique. Par contre, sur un contenu politique des valeurs, encore une fois, j'insiste là-dessus, la démocratie, la transparence, eh bien, nous sommes prêts à travailler avec d'autres. Si nous pouvons être le pivot aussi de ce rassemblement, nous le serons.
Alors, d'ici ces municipales de 2020, il y aura les européennes, c'est au printemps prochain. Le leader, on le connaît, Yann Brossat, pour les communistes, hein, puisque c'est une circonscription nationale. Vous serez sur cette liste ?
Ben, il y aura un candidat qui représentera la Corse sur la liste. Pour l'instant, nous n'avons pas décidé. On vous le fera savoir, en tout cas, en temps voulu.
Eh bien, merci Michel Stéphane d'avoir été
merci à vous.
L'invité de cette émission. Bien, merci.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Voilà, 18h30, Binti Minoudi, c'est fini. Une émission à écouter ou à réécouter sur notre site bleurcfm.course et en vidéo sur notre page Facebook. Prochain invité, jeudi prochain, Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio.